Donc, nous allons poursuivre avec Ludovic Dubost. Donc, Ludovic est créateur du logiciel XWiki, PDG de la société XWiki SAS qui développe donc XWiki et CryptoPad. Et aujourd'hui, on va surtout parler de CryptoPad, vu qu'on a beaucoup parlé de XWiki dans l'émission donc du 10 mars 2020, DG avec Ludovic Dubost. Donc, je vous renvoie à cette émission pour les détails. Là, l'idée, c'était un petit peu de faire un petit point avec Ludovic sur le confinement, comment se passe le confinement pour une entreprise comme XWiki. Et puis, de parler un petit peu de CryptoPad, donc déjà de nous représenter aussi ce qu'est CryptoPad, et est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport justement au confinement, des nouvelles fonctionnalités, une montée en puissance des utilisations. Donc déjà, première question, Ludovic, comment se passe le confinement pour toi et puis et ta société, et puis tes proches?
Alors bah, pour le moment, le confinement se passe bien, enfin sans problème majeur. En fait, nos équipes sont passées en télétravail à 100%. En fait, même un peu avant le début du confinement officiel, on avait en fait autorisé le télétravail 100% à tous nos employés, aussi bien en France qu'en Roumanie, parce qu'on est sur deux pays, nous, enfin plus en plus quelqu'un au Canada. On avait autorisé ce confinement, télétravail 100%. D'habitude, on autorise deux journées de télétravail, sauf aux gens qui sont en télétravail permanent. Mais chaque employé peut faire deux journées de télétravail. Donc, globalement, l'équipe s'est déjà travaillée en mode télétravail et elle est évidemment équipée d'outils pour cela, puisque finalement, avec une part d'employés significative en télétravail, on doit avoir des outils. Et donc voilà, globalement, ça se passe bien du point de vue de l'organisation du travail. Évidemment, ça nous manque aussi de se voir. Le travail, c'est aussi un lieu social. Et donc être un peu reclus chez soi, c'est pas ce que tout le monde veut, hein. Donc c'est un peu pesant à force. Ensuite, du point de vue économique, on sait pas bien quel va être l'impact. Moi, je m'inquiète plus des effets économiques a posteriori que les effets à court terme. En fait, nous, on a une activité de service, on avait des projets qui étaient en cours, ils se sont pas arrêtés, il y en a certains qui se ralentissent. Évidemment, il y a des discussions avec des clients potentiels qui se ralentissent aussi. Donc, mais ça va être difficile de connaître l'effet avant, je dirais, le milieu de l'année. Parce que cette situation pourrait aussi amener les entreprises à se poser des questions sur les outils qu'ils ont et à mettre des nouveaux outils en place.
D'accord. Alors, comme tu le dis, tu as la société a la chance de pratiquer déjà le télétravail et donc d'être prête, ce qui n'a sans doute pas été le cas de beaucoup de gens qui ont été contraints tout d'un coup de se retrouver en télétravail et pas forcément avec les bons outils. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Vincent Xavier sur la partie école où c'est l'une des difficultés. Alors la société XWiki, on va pas en reparler en détail parce que je l'ai dit, on a tout un sujet long, donc 10 mars 2020, donc sur causecommune.fm ou sur april.org, vous pouvez retrouver le podcast donc avec Ludovic. La société fait en résumé des logiciels collaboratifs, donc l'objectif c'est d'aider les gens à partager l'information et à collaborer. Et dans les deux logiciels phares de la société, donc il y a XWiki, mais il y a surtout CryptoPad, dont on avait un petit peu parlé en fin d'émission le 10 mars, et qui, je pense, a dû sans doute subir quelques, comment dire, peut-être évolutions et peut-être un regain d'attirance par les gens, vu justement le confinement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu CryptoPad et nous dire comment, avec le confinement, ce logiciel évolue?
Ouais, alors CryptoPad, en fait, c'est un logiciel d'édition collaborative temps réel qui a la particularité de chiffrer ses données. Ce qui veut dire en fait que au niveau du serveur, on n'est pas capable de lire les données que s'échangent les utilisateurs qui collaborent sur les documents. On pourrait le résumer en c'est un Google Drive, Google Docs chiffré. Alors on n'a pas forcément tout ce que fait Google Docs aujourd'hui, mais on a une partie assez importante. On fait des fichiers texte, des fichiers WYSIWYG, ce qu'on appelle en fait texte riche. On fait des Kanban, donc un peu comme le logiciel Trello qui est très connu. On fait des présentations en mode texte, mais aussi des fichiers Excel. Donc on a un module compatible Excel. On fait des petits dessins. Donc tout un tas d'outils qui de documents, d'édition de documents et de stockage de documents. On peut aussi stocker des documents chiffrés qu'on peut éditer à plusieurs et même consulter à plusieurs, puisque finalement, si quelqu'un tape un document, quelqu'un qui est en mode visualisation, il va voir le document évoluer devant ses yeux en temps réel. Un autre aspect, c'est que est intégré dans CryptPad quelque chose de vraiment innovant, qui est le fait de pouvoir en fait se partager ces documents de façon entièrement sécurisée, toujours sans que le serveur puisse lire les informations. Donc nous, en tant qu'opérateur du service CryptPad.fr, qui est le service, on va dire, principal aujourd'hui qui fait tourner le logiciel libre CryptPad, hein, tout le monde peut installer le logiciel libre CryptPad et ouvrir son propre serveur. On en a pas loin de 400, en fait, serveurs installés. Ce service, ben nous, on l'opère, on peut pas lire les données que se partagent nos utilisateurs. Alors, depuis donc c'était déjà un logiciel qui a une partie gratuite, c'est-à-dire qu'on peut venir sur CryptPad.fr et l'utiliser gratuitement dans une certaine limite. On avait mis cette limite à 50 mégaoctets de fichiers stockés sur son compte quand on crée un compte. Bah depuis le confinement, alors que notre logiciel progressait très régulièrement, c'est-à-dire qu'il avait plus de doublés par chaque année, il avait doublé chaque année les deux dernières années, même triplé. Là, ce qui s'est passé, c'est que le jour du début du confinement, on a doublé d'usage. Et en fait, sur quelques jours, en finale, on a quadruplé d'usage, c'est-à-dire que là où on avait quelque chose comme 1000 ou 1500 utilisateurs par jour, on est passé à 6000 utilisateurs par jour. Là actuellement, ce matin, on était sur des problématiques de performance, on est à 2200 connexions simultanées sur le service CryptPad. Et cette hausse de la façon dont on l'a analysée nous vient tout particulièrement d'Allemagne. En fait, CryptPad est très populaire en Allemagne, beaucoup plus qu'en France. C'est la France.
Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça, Ludovic ?
Alors pourquoi l'Allemagne ? Honnêtement, il y a le fait que il y a une instance majeure d'Etherpad qui existait en Allemagne, qui était gérée par le Pirate Party allemand. Et en fait, ils l'ont migré à CryptPad. Et en fait, cette instance a beaucoup de visibilité en Allemagne, en particulier auprès de gens qui sont sensibles aux problématiques de vie privée dans le monde digital. Et en fait, ça a fait énormément de publicité au logiciel CryptPad, et entre autres dans les milieux éducatifs. Donc on pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs dans les milieux éducatifs, et d'où aussi la hausse pendant le confinement. Il y a eu aussi une présentation de CryptPad au CCC il y a quelques années. CryptPad est très connu en Allemagne plus qu'en France.
On va juste préciser que le CCC, c'est le Chaos Computer Camp, c'est ça ?
C'était au Chaos Computer Camp, effectivement, qui est géré par le Chaos Computer Club.
Voilà, exactement.
Et qui est en fait le club de hackers, on va dire, le plus connu en Europe, et parle beaucoup de ces sujets-là. Et donc la visibilité que ça a donné à CryptPad lors de cette présentation a fait que ça a démarré un peu de connaissance du logiciel CryptPad. Alors après, est-ce que les Allemands sont plus sensibles à la vie privée? C'est possible. Je saurais pas complètement juger de ce point-là. Mais en tout cas, nous, on est très contents d'être en France. CryptPad, son développeur principal, il est canadien, il est au Canada. On est très contents de pouvoir développer ce projet de façon internationale. Et le fait que notre premier pays soit pas notre pays à nous, c'est finalement très bien. Ça rend le projet encore plus international.
D'accord. Donc il y a une hausse d'utilisation. Est-ce que vous avez des demandes, par exemple, alors soit de type support, c'est-à-dire pour d'aide à l'utilisation, ou des demandes pour rajouter des fonctionnalités qui seraient utiles dans cette période de confinement, enfin qui seraient plus utiles dans cette période de confinement que déjà la normale?
Alors on en a pas mal. On a en permanence des demandes. on a une liste assez large de ce que les gens voudraient qu'on fasse. Bon, après, on voit dans la période de confinement une chose, c'est que l'audioconférence, la vidéoconférence, c'est quelque chose de très important. Et c'est peut-être encore plus populaire, on va dire, et plus nécessaire que les documents partagés. Et donc il y a aussi une demande de, est-ce qu'on peut pas faire travailler ces outils-là ensemble? Est-ce qu'on peut faire une conférence en même temps qu'on fait un document? Et est-ce qu'on peut pas intégrer les outils? Donc on a commencé à regarder, mais c'est compliqué parce que en fait l'audioconférence chiffrée, ça existe pas vraiment encore. Il y a quelques petits trucs, il y a des débuts de travaux autour de Jitsi pour faire du chiffrement bout en bout, mais il ne fonctionne que sur Chrome. Voilà. Et alors, moi personnellement, en fait, j'ai commencé à faire un prototype dans CryptPad pour voir un peu ce que ça pourrait faire. Et donc, on commence à avoir des discussions autour de ce sujet-là. Mais ce que nous demandent le plus les gens, ils nous demandent en fait la... des applis mobiles. Ils nous demandent des fonctionnalités dans les outils eux-mêmes. Par exemple, une des choses qui nous est le plus demandée depuis longtemps, c'est des utilisateurs d'Etherpad, c'est de pouvoir faire la coloration liée à l'auteur du texte. Donc, dans un pad de texte, pas dans un pad riche, mais dans un pad de texte, c'est de pouvoir voir visuellement quelle partie du document a été écrit par qui. Et en fait, ça sort aujourd'hui, grâce à des contributeurs et aux travaux des équipes. Ça sort en ligne ce D'accord. soir, en fait, dans quelques heures.
Ok, on va juste préciser pour les gens...
Dans les pads de code.
On va juste, Ludovic, préciser que quand tu parles d'Etherpad, c'est un logiciel qui permet de faire de l'écriture collaborative en ligne, même si derrière, il peut y avoir plusieurs logiciels, mais en gros, c'est ça, quoi. Et donc là, ce que vous allez sortir ce soir, c'est la coloration qui permet de savoir effectivement qui a contribué sur telle partie de tel texte.
Exactement. C'était probablement la feature qui embête le plus les utilisateurs d'Etherpad ou de Framapad, puisqu'en France il est connu à travers Framapad, Etherpad. C'est la fonctionnalité qui manque le plus aux utilisateurs de Framapad pour passer sur CryptPad et donc chiffrer leurs données. Parce que en fait, pourquoi notre système est pas basé sur Etherpad? Parce que on s'est posé la question. C'est pas parce qu'Etherpad est pas un bon logiciel, c'est parce qu'en fait le système algorithmique derrière Etherpad ne peut pas être chiffré de la façon dont on le fait dans CryptPad pour empêcher le serveur de voir les informations. En fait, dans Etherpad, l'algorithme est fait pour que ce soit le serveur qui s'occupe de la synchronisation temps réel du document. En fait, il faut comprendre que c'est très compliqué finalement de se passer du serveur pour synchroniser les actions des utilisateurs sur des documents. Et c'est ça l'innovation qu'il y a derrière CryptPad.
Tu l'as tout à l'heure expliqué au début, la base d'un outil comme CryptPad, c'est ce qu'on appelle le zéro connaissance. C'est-à-dire que le serveur n'a vraiment aucune connaissance des données qui sont éditées, parce qu'en fait, tout se passe sur le poste client, et notamment le chiffrement. Et donc évidemment, d'un point de vue algorithmique, c'est-à-dire d'un point de vue processus, écriture de code, c'est beaucoup plus compliqué à faire que si tout se passait sur le serveur, mais à ce moment-là, le serveur aurait accès aux informations.
C'est ça, et c'est vraiment. Alors, on peut pas dire aucune, hein, parce que il y a toujours un peu d'informations. Par exemple, il y a les IP, on voit les IP des gens qui sont connectés, on voit toujours quelque chose. Mais vraiment, le travail au niveau de CryptPad, c'est la minimisation des informations qui sont transmises, aussi bien sur les documents que sur les données autour des documents. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans le développement logiciel. Là, aujourd'hui, quand du chiffrement est introduit dans les logiciels, on va avoir du chiffrement du client vers le serveur, on va avoir du chiffrement d'une partie des données. Mais en fait, on va très rarement avoir une approche qui consiste à dire, attention, il faudrait que tout soit chiffré. Et ça, c'est vraiment le travail qui est fait derrière CryptPad, c'est de se reposer en disant, on va chiffrer tout, et tout en offrant un outil qui est extrêmement ergonomique et extrêmement facile à utiliser. C'est vraiment ça notre objectif, et c'est de prouver qu'il est possible aussi de repenser la façon dont les logiciels sont écrits pour être privacy by default, privacy by design, qui est un sujet important. Hein. C'est finalement, on l'a entendu avec la polémique autour de Zoom. Zoom, ils ont prétendu que leur logiciel faisait du chiffrement de bout en bout. Et après, ils ont déclaré bah, ce qu'on appelait bout en bout, c'est du client au serveur. C'est pas du client à l'autre client. Et donc, il y a beaucoup de mésusages des termes de sécurité dans le domaine. Et le travail qu'on essaie de faire dans CryptPad, c'est de vraiment de minimiser, mais en même temps, on veut pas raconter de salade aux gens sur qu'est-ce qui est disponible. CryptPad n'est pas un outil anonyme, par exemple, parce que il est possible de retrouver à partir de l'IP, on peut retrouver des choses. On va pas retrouver les données, mais on peut quand même retrouver que qui utilise l'outil, enfin quelles IP sont venues utiliser l'outil CryptPad.
Oui, parce que ça fait aussi partie de certaines obligations d'hébergeurs de garder des données pendant un certain temps, dont les adresses IP.
À partir du moment où une donnée a été transmise, elle est compromise. Donc qu'on la garde ou qu'on la garde pas, ça la compromet plus ou moins longtemps, mais à partir du moment où elle est transmise, elle est compromise.
Tout à fait. Est-ce que vous avez reçu des propositions de code? C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, tiens, moi, parce que CryptoPad est développé exclusivement, si je me souviens bien, donc par ta société, par XWiki, est-ce que vous avez reçu des propositions de ce qu'on appelle des patchs, c'est-à-dire un code qui permet de rajouter une fonctionnalité dans CryptoPad ou de corriger un bug?
Oui, alors on a régulièrement des propositions de code. Maintenant, il faut, c'est pas la majorité du code, mais typiquement la coloration, c'est des gens du Pirate Party qui l'ont fait. Donc et c'est nous qui l'avons intégré. Donc oui, on reçoit des patchs, on reçoit aussi beaucoup de rapports de bugs qui nous précisent exactement quel est le problème et qui nous aident beaucoup à développer plus vite. C'est tous les avantages du développement sous forme de logiciel libre et qui est très important. Maintenant, la majorité du code est écrit par nous. C'est du code qui est compliqué. C'est pas facile de rentrer dans CryptPad du fait de à la fois de son architecture, des problématiques de sécurité, mais c'est faisable. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des développeurs JavaScript qui veulent venir aider, faut pas hésiter. On a besoin d'aide. On a plein d'idées. Et on n'a clairement pas assez de moyens pour réaliser toutes les idées qu'on voudrait réaliser. CryptPad, en fait, c'est une équipe de 3 personnes dans ma société. Donc un designer et 2 développeurs. Et aujourd'hui, le financement, initialement, c'était un financement de projet de recherche de la BPI. Et c'est en fait cette année, et depuis mars 2019, on a réussi à trouver des financements européens. NLNet, j'en avais parlé la dernière fois lors de l'émission, et NGI Trust. On a aussi eu une aide de Mozilla, en fait. Lorsqu'on était à Fosdem, il y a eu un événement où on voulait venir pitcher des projets open source et gagner entre guillemets 10 000 dollars. Et CryptPad a été un de ceux-là. Et donc on a reçu aussi 10 000 dollars de la Mozilla Foundation, donc on les remercie. Et ça nous permet de financer notre équipe au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc tout ça, on est plutôt très, très satisfait de la façon dont les choses avancent. On est un peu moins satisfait de la crise du Covid, qui est positive pour l'usage de CryptPad, mais évidemment, on aurait préféré que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, on avait bouclé notre financement pour l'année, ce qui est une bonne nouvelle. On a aussi on peut prendre des souscriptions sur CryptPad.fr et on peut faire des donations sur Open Collective. Et je ne limiterai pas le fait que c'est important, en fait, que ces donations, même si elles ne représentent pas la majorité de l'argent dont on a besoin aujourd'hui pour le développement de CryptPad, ils sont très importants parce que notre objectif, c'est pouvoir transitionner de financement public à un financement qui nous rend indépendants du fait de demander de l'argent, en fait, et d'avoir un financement régulier, soit par nos utilisateurs sur CryptPad.fr parce qu'ils payent des souscriptions, soit des donateurs réguliers sur Open Collective. En fait, aujourd'hui, on estime à peu près à 20 000 euros ce qu'on obtiendra par ce biais sur l'année. Et pour être indépendant, idéalement, il nous faudrait 150 000, 200 000 euros.
D'accord. On va rappeler que la
Pardon.
BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Et j'encourage donc une nouvelle fois les auditeurs et auditrices à écouter l'émission du 10 mars 2020, hein, sur causecommune.fm, consacrée au financement de logiciels libres et notamment donc avec le retour d'expérience de Ludovic. Ludovic, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour terminer?
Oui, le dernier point que je voulais dire, c'est, t'as mentionné, qu'est-ce qu'on nous demande. Il y a des choses qu'on ne nous demande pas, c'est que le service marche, et quand on a multiplié par 4 l'usage, évidemment, il fallait qu'il tienne. Et en fait, le gros de notre action, ces dernières semaines, ça n'a pas été uniquement de rajouter des fonctionnalités, parce qu'on avait un plan de travail de fonctionnalités très riche, mais en fait, c'est rajouter à ce plan de travail de fonctionnalités un plan de travail sur la scalabilité, la montée en charge du serveur et du logiciel. Et en fait, parce que quand on est passé du jour au lendemain du simple au double, on est plutôt très satisfait que ça n'a pas planté, et ça s'est fait dans des bonnes conditions. Mais c'est pas du tout évident, et donc que si ça continue à monter, évidemment, il faut qu'on continue à suivre la montée en charge. Et donc c'est une grosse partie de nos actions, c'est de tenir la charge. On sait que Framasoft, quand l'éducation nationale a pointé en disant aux profs allez utiliser les services de Framasoft, Framasoft a réagi en disant, mais attendez, si tout le monde vient, nous, on ne pourra pas tenir, faut être clair. Et donc, c'est un des problèmes de tous ces services en ligne, c'est qu'il faut les faire tenir aussi face à la montée en charge.
Oui, tout à fait, tout à fait raison de préciser ça. Ben écoute, Ludovic, je te remercie. Le site web, donc, pour découvrir et utiliser CryptPad, ben c'est cryptpad.fr. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, à faire des retours, des contributions, soutenir aussi financièrement. Donc, c'était donc Ludovic Dubost, donc de la société XWiki, qui nous a parlé de CryptPad. Ludovic, je te souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt sur nos antennes, sans doute, pour reparler à nouveau de logiciels libres, de financement.
Merci, bonne journée, bonne soirée
Bonne journée.
et bravo pour l'émission.
Merci, merci Ludovic.